Santé pour tous.
Santé pour tous.
Tous les jeudis, Paul-Bénédicte Bolou pilote le rendez-vous consacré à la santé et au bien-être. Interviews, reportages et dossiers ponctuent votre magazine Santé pour tous sur Radio de la Paix.
Dans un monde où la santé et le bien-être sont des droits fondamentaux, la stigmatisation et la discrimination des personnes vivant avec le VIH demeurent des réalités dévastatrices. Malgré les avancées médicales et les campagnes de sensibilisation, de nombreuses personnes continuent de faire face à des préjugés, à l'isolement et à des inégalités qui entravent leur accès aux soins et à une vie épanouissante. Ce magazine se propose d'explorer les racines de cette stigmatisation, d'analyser ses conséquences sur la vie quotidienne des personnes touchées et de mettre en lumière les initiatives qui œuvre pour un changement positif. À travers les analyses d'un expert, nous espérons susciter une réflexion collective sur l'importance de l'empathie, de l'éducation et de l'inclusion pour bâtir un avenir où chacun, indépendamment de son statut sérologique, peut vivre librement et dignement. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans Santé pour tous sur Radio de la Paix.
Les experts de la santé répondent aux questions de santé pour vous éclairer.
Eddy François, bonjour. Vous êtes point focal droit humain au programme national de lutte contre le sida. Compréhension et acceptation, parlons des chaînes de stigmatisation et de la discrimination envers les personnes vivant avec le VIH dans notre pays.
La stigmatisation et la discrimination constituent un véritable frein dans l'accès aux soins en ce qui concerne les VIH et donc les personnes qui vivent avec le VIH et les populations clés. Population clé, c'est ce groupe de population-là qui concentre l'infection à VIH. Et donc, en termes de prévalence, il y a une forte concentration au sein de cette population. Citer les travailleurs de sexe avaient une prévalence de 10,20%, les hommes qui ont des rapports sexuels avec une prévalence de 10,70%, les usagers de drogue avec une prévalence de 6,6%, la population carcérale une prévalence de 2,6%, et récemment les personnes transgenres identifiées comme population clé avaient une forte prévalence de 24,6%. Et parmi ces personnes transgenres, on retrouve également des travailleurs de sexe. C'est ce groupe de personnes qui nous tire vers le bas. Et donc, il est important d'accentuer toutes les stratégies envers ces populations pour pouvoir aller à l'élimination à l'horizon 2030. Comme le disent, n'est-ce pas, les objectifs de l'Organisation mondiale de la santé.
Quels sont aujourd'hui les freins qui entravent l'atteinte de l'objectif de réduire la stigmatisation et la discrimination des personnes PPVIH?
La discrimination constitue un véritable frein parce que lorsque vous êtes stigmatisé, vous êtes discriminé, vous ne pouvez pas vous rendre dans les services de santé. Au niveau même des services de santé, il y a encore une forte stigmatisation. Parce que lorsque les populations clés, je vais parler par exemple des hommes qui ont des rapports sexuels, d'autres hommes qui arrivent dans les centres de santé pour leurs soins, du fait de leur corpulence très efféminée, et ces populations-là, on le regarde de tout le monde porté sur eux. Du coup, ces populations-là refusent l'accès aux services de santé. On parle également des personnes transgenres qui arrivent dans les services de santé. Et le regard d'autrui porté sur ces personnes-là vraiment les désubstantialise à telle enseigne que ces personnes-là refusent de se rendre dans les centres de santé pour l'administration de leurs médicaments. Et du coup, si ces personnes-là ne prennent pas leurs médicaments, vous comprenez qu'il y a un véritable problème.
Alors, Eddy François, quelles sont les principales difficultés rencontrées par les PPVIH?
D'accord. Déjà, il faut souligner que le visage hideux que présentait le VIH par le passé aujourd'hui n'est plus ce visage là, du fait des efforts du ministère de la Santé, de l'hygiène pour la couverture maladie universelle à travers le programme national de lutte contre le sida, qui est la partie technique de ce ministère de la Santé là, en charge de porter la réponse à l'infection à VIH. La difficulté est qu'aujourd'hui, il faut dire que les populations clés, lorsqu'elles n'ont pas accès aux services de santé, évidemment, elles retournent chez elles. Et je prends par exemple le cas des travailleurs de sexe, qui font le travail du sexe. Et si ces personnes ne sont pas dans les soins, évidemment, qu'elles vont contaminer plusieurs personnes. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que le travail du sexe, par exemple, a évolué. Il y a des travailleurs de sexe de jour, il y a des travailleurs de sexe de nuit, et même dans nos lycées ou collèges, on a nos enfants qui font le travail de sexe. Il y a des travailleurs de sexe qui sont non affichés, il y a des travailleurs de sexe qui sont affichés sur des sites professionnels. Et qui sont ces clients-là? Les clients sont nos enfants, les clients sont nous-mêmes, les clients sont nos collaborateurs au travail. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui est gravé sur le front pour dire que telle ou telle personne fait le travail de sexe. Ça peut être une jeune fille que vous rencontrez dans le quartier, et ça peut être la sœur de quelqu'un, d'une amie ou d'un ami que vous connaissez. Et donc, c'est tout ça mis ensemble qui rend effectivement difficile la lutte. Mais par rapport à tout ça, il y a des stratégies stratégies qui sont mises en place. Nous avons des pères éducatrices, nous avons des professionnels du sexe avec lesquels nous arrivons à pouvoir identifier les travailleurs de sexe. Nous avons des missions de supervision, de coaching sur site, pouvoir rencontrer ces travailleurs de sexe-là. Nous avons récemment eu une mission avec Alliance Côte d'Ivoire à l'intérieur du pays. Nous sommes rendus compte qu'il y a de gros sites professionnels sur les sites d'opaillage. Et là encore, ça constitue une véritable difficulté parce que l'accès à ces sites d'opaillage-là est quasi impossible parce que les gens sont armés jusqu'aux dents. Comment faire pour aller dans ces sites d'opaillage-là? Et c'est là-bas qu'aujourd'hui, les travailleurs de sexe se retrouvent parce que c'est une population qui est très mobile. Lorsqu'elles apprennent que dans telle zone, il y a l'opaillage, elles ruent vers cette zone-là. Quand elles apprennent que dans telle zone, c'est la période, c'est du café ou du cacao, elles vont vers cette zone-là. Et donc, c'est une population qui est très mobile et donc difficile, n'est-ce pas, à maîtriser.
Vous avez déjà répondu à cette question, mais quelles sont les causes profondes de cette stigmatisation? Est-ce que c'est la peur, le manque d'éducation ou de toute autre chose?
Effectivement, les causes profondes de la stigmatisation, c'est la peur du regard, je pourrais dire la peur du regard d'autrui, parce que une personne qui est stigmatisée ne veut même pas se prononcer même sur son état de santé. Et donc, la discrimination aujourd'hui constitue un véritable frein. Pour toute personne, un citoyen lambda qui est discriminé, même dans un quartier, refuse même de s'approcher des siens pour pouvoir ne serait-ce que s'amuser ou parler avec eux. Donc, avec la loi VIH, au début, l'infection, la réponse était du point de vue médical. Et au fil des années, nous sommes rendus compte qu'il fallait trouver d'autres stratégies. En termes de stratégie innovante, il fallait inclure, n'est-ce pas, le volet droits humains. Et nous sommes rendus compte qu'en faisant tomber les barrières de la stigmatisation et de la discrimination, aujourd'hui, on a un plus grand nombre de populations clés de VIH qui fréquentent les centres de santé. Parce que quand il y a la discrimination et qu'il y a la stigmatisation, évidemment que les malades et donc les VIH fuient les hôpitaux.
Comment la discrimination affecte-t-elle la vie des personnes vivant avec le VIH, que ce soit au travail, en famille ou en communauté, même à l'école?
Je prends déjà le milieu du travail. Par exemple, pour un chef d'entreprise qui découvre le statut sérologique de l'un de ses agents, s'il divulgue ce statut sérologique-là, vous comprenez avec moi que cet agent-là, évidemment, aisément en ce lieu de travail, en termes de rendement, il ne pourra pas être efficace. Et donc, la stigmatisation en milieu du travail, aujourd'hui, est un fléau et considéré comme quelque chose de très néfaste. Et c'est pour cela que nous avons une activité, le recrutement d'un consultant pour l'étude des gaps analytiques en milieu réglementaire, en ce qui concerne les dispositions réglementaires du travail, pour qu'on puisse organiser le milieu du travail. Parce que c'est vrai, je suis PVVIH, mais j'ai la matière grise. C'est vrai, je suis PVVIH. Cela ne m'empêche pas d'être beaucoup plus efficace en termes de rendement que quelqu'un qui est sain. Aujourd'hui, le VIH est considéré comme une maladie chronique, comme le diabète, l'hypertension artérielle. Et donc, il faut pouvoir faire tomber toutes ces barrières-là en milieu du travail en termes de stigmatisation et de discrimination à l'endroit des PPVIH.
Parlons du cadre juridique et de la protection des PPVIH. Selon vous, est-ce que ces lois sont-elles vraiment appliquées aussi? Est-ce qu'elles sont efficaces?
Effectivement, ces lois sont appliquées, mais il faut dire qu'il y a des structures qui contournent et donc qui trichent avec ces lois-là. Aujourd'hui, le concours au niveau administratif et donc les concours nationaux, on vous demande d'aller à un concours national et après, il y a ce qu'on appelle l'étape de la visite médicale. Et après cette étape-là, il y a des personnes qui sont éliminées. Les raisons ne sont pas données, c'est un concours administratif, on ne sait pas, mais nous, ça pourrait prétendre, ça pourrait porter à explication parce que des personnes qui sont éliminées au niveau de la visite médicale, il y a le test médical qui est fait. Donc, si la personne est positive, on ne lui dira pas que vous avez été éliminé, mais sûrement, on sait qu'il y a par exemple des causes comme le VIH, la tuberculose ou autres qui sont des maladies discriminatoires en ce qui concerne ces concours administratifs-là. Par le passé, il y avait des hommes de petite taille au niveau de la police, et donc ces personnes-là subissaient des formes de discrimination en ce qui concerne ces concours-là. Ces personnes étaient stigmatisées, discriminées, parce qu'elles ne pouvaient pas avoir accès à ces concours-là. Aujourd'hui, par la force des choses, nous avons pu lever cela. Aujourd'hui, au niveau de la police, au niveau de la gendarmerie, au niveau de l'armée, cela n'est plus pris en compte aujourd'hui. Vous avez les aptitudes requises et donc nécessaires, vous pouvez postuler à ces concours-là. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire là-dessus en milieu de travail.
Quelle est justement l'importance de la santé mentale pour les PPVIH? Quel type de soutien est préconisé?
Il y a un véritable problème de santé mentale et je salue au passage le programme santé mentale parce que quand vous êtes victime de stigmatisation, de discrimination et que vous ne pouvez pas jouir de votre background parce que vous avez fait des formations, vous avez fait l'université, vous avez été formé, vous avez une qualification professionnelle et du fait de la stigmatisation, vous ne pouvez pas exercer pleinement votre travail dans votre devoir. Et donc, en termes de santé mentale, vous comprenez que c'est le chaos total. Donc, ce sont des leviers qu'il faudrait pouvoir regarder de près. Parce qu'aujourd'hui, comme on le constate aussi bien en Côte d'Ivoire qu'un peu partout ailleurs, on a des fous et donc c'est des problèmes de santé mentale. Donc, les personnes qui ont ces problèmes-là, vraiment, ça déteint négativement aussi bien au niveau social, au niveau environnemental. Et ça constitue un véritable danger pour l'avenir d'aujourd'hui et donc l'avenir de demain.
Est-ce qu'il existe un réseau de soutien pour les personnes vivant avec le VIH-SIDA?
Bon, en termes de réseau de soutien, il y en existe, mais à une échelle vraiment très minime. Et donc, à ce niveau-là, je pense que nos gouvernants doivent, n'est-ce pas, porter un regard là-dessus.
pour les parents, les proches, quel est le type de soutien qu'ils doivent apporter au PPVIH?
Oui, il y a d'abord le soutien psychologique et puis le soutien physique. D'abord, le soutien psychologique est le soutien le plus important. Parce que lorsqu'une personne souffre de problèmes de santé mentale, d'abord, il faut le soutien psychologique. Et donc, l'entourage de la famille auprès de cette personne-là, l'entourage des proches auprès de cette personne-là, pour vraiment apporter ce soutien psychologique-là à cette personne-là pour qu'elle puisse retrouver goût, n'est-ce pas, à la vie.
Quels sont, selon vous, aujourd'hui, les prochains défis à relever dans la lutte contre le VIH, tant au plan social que médical?
Tant au plan social que médical, il faut dire aujourd'hui que le VIH n'a plus ce visage haineux. Par le passé, nous avons connu un VIH très effrayant. Aujourd'hui, le VIH est considéré comme une maladie chronique. Le VIH tue moins que l'hypertension artérielle, que le diabète, que toutes les autres maladies. C'est considéré comme une maladie chronique. Lorsque, aujourd'hui, la stratégie mise en place à travers le PSN, qui est le plan stratégique national 2021-2026, nous parlons de 3,95. Donc 95% de la population, lorsque vous êtes vite dépisté, donc vous connaissez votre statut sérologique, le premier 95, le deuxième 95, vous êtes mis sous traitement, et le troisième 95, vous avez votre charge virale qui est supprimée. À tel enseigne que vous pouvez avoir une vie normale, vous pouvez procréer. C'est ça l'une des stratégies du ministère de la Santé via la structure technique et le programme national de lutte contre le sida. C'est l'atteinte des 3,95. Donc il y a des sensibilisations, il y a des communications, il y a des ateliers de formation, il y a des missions de coaching sur terrain, la formation des hommes de médias. Et nous savons que la communication est une arme très, 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 très importante et donc une arme très forte qui peut permettre à tout pays, toute société, n'est-ce pas, d'avoir une propulsion à l'avant, d'avoir un développement économique, social considérable. Nous pouvons compter sur la parole des hommes des médias qui portent. Seuls les médias ont ce pouvoir de porter la voix de ceux qui ne portent pas, donc la voix des sans-voix.
Que diriez-vous à la nouvelle génération qui ignore encore cette maladie ou qui feint de l'ignorer?
Oui, en ce qui concerne la nouvelle génération, je dirais que c'est un problème éducationnel parce qu'aujourd'hui, même à l'école primaire, on enseigne le VIH. Cela ne doit plus être un tabou pour les parents et pour les enfants. Il y a aussi la responsabilité parentale. Il faut pouvoir expliquer aux enfants les risques auxquels ils se présentent face au VIH. Parce qu'aujourd'hui, il y a un constat malheureux. Il y a des parents qui se permettent de mettre des implants à leurs enfants. Parce que pour eux, la véritable catastrophe, c'est que la jeune fille tombe enceinte pendant qu'elle est en cours de scolarisation. Alors que les implants, par exemple, vous protègent contre les grossesses indésirées, ne vous protègent pas contre les IST et contre le VIH. Et donc ça aussi, c'est une erreur de nos parents. Donc, il faut pouvoir interpeller et éveiller la conscience des parents sur ces danger là. Parce que mettre un implant à son enfant, elle voudrait ouvrir la porte à toutes sortes de maladies infectieuses, donc le VIH par exemple. En ce qui concerne le regard qu'on pourrait apporter sur la jeunesse, c'est un regard de sensibilisation et d'encouragement. Et dit aux jeunes, malheureusement comme nous sommes en train de le voir aujourd'hui, il y a la révision de la loi VIH en ce qui concerne l'âge du consentement. Dans d'autres pays, par exemple au Centrafrique, l'âge du consentement est de 12 ans. Ici, nous sommes à 16 ans révolus. Et donc quel enfant pourra aller devant son papa, dire à son papa, dire, ah papa j'ai envie d'aller faire un test de dépistage. Or, on sait bien que nos enfants sont sexuellement actifs. Aussi bien au primaire qu'au secondaire. Les enfants connaissent très tôt le sexe. Et le VIH n'est pas une personne. Et donc, il est important pour nous d'éduquer, de mettre l'accent sur des campagnes de sensibilisation en ce qui concerne les adolescents et jeunes filles.
Vous avez dit que, même dans les centres de santé, avec les professionnels, les patients sont stigmatisés. Alors, que fait le PNLS?
D'accord, pour répondre à votre préoccupation, le PNLS, c'est le Programme National de Lutte contre le Sida. Et donc, la structure technique du ministère de la Santé en charge d'apporter la réponse à l'infection à VIH. Donc, au sein du PNLS, nous avons des techniciens, nous avons des juristes, nous avons des médecins. C'est tout un arsenal que regorge le PNLS. L'hôpital est un nid de stigmatisation parce que lorsque le patient arrive pour ses soins, d'abord, il a une longue file d'attente. Je prends le cas d'une TS qui, du coup, de par son accoutrement, tout de suite là, à le regard des uns et des autres braqués sur elle. Du coup, ça la désubstantialise. Elle ne peut pas rester là, attendre 30, 40 minutes, voire une heure de temps, alors qu'elle est venue pour ses ARV, par exemple, ou par exemple pour des comprimés de. Du coup, cette jeune fille-là ne pourra pas rester là, elle va retourner. Par exemple, pour une personne qui est un peu VIH, qui vient pour ses médicaments, quand elle arrive, le prestataire de santé, vous savez que les hommes parlent beaucoup, qui va dire, par exemple, ah, bah, voilà la jeune fille-là, depuis on l'attendait, elle n'est pas venue. Les exemples sont légion. Nous avons eu des cas d'une jeune fille, par exemple, de jeune fille, je dirais, des rapporteurs de témoignages, elle nous a dit que l'assistante sociale lui a crié là-dessus, mais toi, depuis la semaine dernière, on t'a pas venu prendre tes médicaments, aujourd'hui tu viens. C'est pas moi si de la va tuer, c'est toi si de la va tuer. Donc voilà des exemples types qui décrivent le fait que l'hôpital même constitue le lieu même de stigmatisation et de discrimination. Et vous comprenez avec moi aisément que cette jeune fille-là ne pourra plus remettre les pieds dans un tel centre de santé pour aller chercher ses médicaments. On ne dira pas qu'il manque de formation, d'éducation, mais je dirais que c'est autre chose. Nous avons fait des missions de coaching où on a vu par exemple des prestataires de santé, des médecins qui nous ont dit carrément que moi, votre affaire de sida, là, je ne suis pas dedans. Et donc, il y a ce problème-là parce que l'homme reste ce qu'il est. Il y a la formation, il y a l'éducation, mais je vous dis, un médecin qui dit que moi, je ne peux pas, vous comprenez? dis en substance, il y a des formations pour la prise en charge VIH, il y a des coachings sur site, des coachings sur terrain pour vraiment dire aux prestataires que vous avez prêté serment. Et il y a ce qu'on appelle la déontologie et l'éthique médicale. Et donc, c'est à partir du moment où vous avez prêté serment, il faut pouvoir traiter tous les patients au même niveau.
Merci infiniment, Eddy François.
Je vous en prie.
Radio de la Paix.
Concernant la discrimination et la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH, les PPVIH, il est mis en lumière l'importance cruciale de la sensibilisation et de l'éducation. Il est essentiel de combattre les préjugés et les idées reçues qui entourent le VIH car il contribue à l'isolement et à la souffrance des personnes concernées. Le magazine de santé de ce jour a souligné que la stigmatisation peut avoir des conséquences dévastatrices sur la santé mentale et physique des personnes PPVIH, des personnes vivant avec le VIH, rendant difficile leur accès aux soins et à un soutien adéquat. Il est également important d'encourager les politiques inclusives et de soutenir les initiatives qui visent à protéger les droits des PPVIH. En unissant nos efforts, nous pouvons créer un environnement où chacun est traité avec dignité et respect, indépendamment de son statut sérologique. La lutte contre la discrimination et la stigmatisation est un enjeu collectif qui nécessite l'engagement de tous. C'est ce que nous disait Eddy François. Point focal, droit humain au programme national de lutte contre le sida en Côte d'Ivoire. Fin de Santé pour tous. Merci et à bientôt.